Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions à l'investiture de Vladimir Poutine, réélu en mars dernier avec 87% des voix, le chef du Kremlin s'apprête à prêter serment pour un cinquième mandat. La cérémonie doit commencer dans une cinquantaine de minutes, une investiture boycottée par les États-Unis et la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Rappelez-vous, au lendemain du scrutin, la plupart des dirigeants occidentaux avaient dénoncé une élection illégitime. Alors, quelle image vous renvoie Vladimir Poutine, décrié en Occident ? Est-il populaire dans votre pays ? Et quelles répercussions cette réélection sur le continent africain ? On en parle évidemment tous ensemble. Vladimir Poutine ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux, on vous donnera la parole. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. On va commencer en parlant football. Le match choc de ce soir en Ligue des Champions. Bonjour Kodjo.
Bonjour Juan, bonjour à mes amis de RFI.
Et à tous ceux qui nous écoutent à Lomé dans la capitale togolaise, où vous êtes. Vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain?
Bien sûr, je supporte Paris Saint-Germain et je voudrais franchement savoir, après la défaite 1-0 au match aller de la demi-finale de Champions League, là.
Oui.
Au fait, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, compte employer quelle stratégie pour prendre sa revanche ce soir?
Ouais, c'est vrai que les Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur hein, s'ils veulent continuer leur parcours en Ligue des Champions. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Juan, bonjour Kojo.
Journaliste au service des sports de RFI, vous aurez le privilège d'être ce soir au Parc des Princes pour nous faire vivre cette rencontre. Les Parisiens doivent s'imposer par 2 buts d'écart. Quel sera donc le plan de Luis Enrique?
Alors plutôt que de stratégie, on va surtout parler d'état d'esprit. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien en tête le match aller, mais en tout cas montrer autre chose qu'à Dortmund. On avait vu une équipe de Paris qui n'avait pas franchement répondu présent dans l'intensité, notamment en première période. Je vais vous donner un chiffre qui résume assez bien la différence entre les deux équipes. Les Parisiens avaient couru 10 km de moins que les Allemands sur l'ensemble du match. Et ça avait sans doute eu une importance dans le résultat final sur la composition d'équipe. Luis Enrique, il ne devrait pas changer grand-chose, mis à part la titularisation du Brésilien Lucas Beraldo en défense centrale à la place d'un autre Lucas Hernandez qui s'est blessé gravement au genou au match aller, rupture des ligaments croisés, il va manquer l'Euro. Et puis pour le reste, peu de changements, peut-être une titularisation pour le Portugais Gonçalo Ramos en pointe qui marque beaucoup de buts en cette fin de saison, ce qui décalerait Kylian Mbappé sur le côté gauche et bien mettrait Bradley Barcola sur le banc de touche. Mais
le credo de Luis Cédric, vous dites peu de changements, mais en même temps, les Parisiens vont devoir trouver la faille devant ce fameux mur jaune de Dortmund, qu'ils n'ont pas réussi à percer la semaine dernière.
Ouais, le mur jaune, c'est surtout les supporters hein, de Dortmund, alors, qui avaient eu d'ailleurs leur importance au Signal Iduna Park. Mais c'est vrai, il faudra marquer un but à cette équipe et ils vont pouvoir peut-être compter sur leurs supporters parisiens qui, eux, seront nombreux. Mais ce qu'a essayé de faire Luis Enrique, c'est depuis quelques jours, c'est comme lors du tour précédent face à Barcelone, c'est de dédramatiser l'événement. Hein, c'est d'enlever de la pression à ce club qui, souvent, par le passé, a dégagé une impression de fragilité. Et cette fois, c'est cette sérénité. Hier en conférence de presse, il a dit on va gagner. Oui. C'est la seule phrase que je connais en français. Voilà, alors c'est pas forcément de l'excès de confiance, hein, mais il veut vraiment évacuer cette pression de cette demi-finale et essayer de leur transmettre une sérénité et cette sensation d'être sûr de sa force face à cette équipe de Dortmund.
Et les Parisiens ont un petit avantage puisqu'ils ont eu 5 ou 6 jours pour se préparer, ce qui peut faire la différence aussi ce soir.
Oui, avec cette facilité de la part de la Ligue de football professionnelle française, c'est bien d'enlever ce match ou en tout cas de décaler ces matchs de Ligue 1 pour pouvoir se préparer dans la sérénité.
Kodjo, une dernière question, profitez-en, Cédric de Oliveira est avec nous.
Oui, quelle chance en réalité les Parisiens ils ont pour atteindre la finale.
En réalité, hein, vous demande Kodjo, Cédric.
Ouais. Ouais, c'est toujours difficile, voilà, d'établir des pourcentages, mais évidemment que Paris a une chance. Déjà parce que bah, l'équipe joue à domicile et que jusqu'à maintenant dans cette campagne de Ligue des Champions, les Parisiens sont quand même beaucoup plus à l'aise au Parc des Princes qu'à l'extérieur. Je vous parlais du soutien du public. Ça avait eu son importance pour Dortmund, ça l'aura sans doute pour le PSG. Et puis les Allemands, ils sont moins à l'aise à l'extérieur. Eux, c'était il y a longtemps, une éternité dans le foot, mais je vais vous rappeler qu'en septembre, en phase de poule, bah, les deux équipes s'étaient affrontées au Parc des Princes et que le PSG avait largement dominé le Borussia 2-0 pour lancer la campagne de Ligue des Champions. Et puis on peut se dire que certains joueurs n'étaient pas forcément à leur niveau au match aller. On pense à Ousmane Dembélé qui avait raté plusieurs grosses occasions. On pense au Portugais Nuno Mendes en défense. Et puis on attend bien évidemment beaucoup plus de Kylian Mbappé. Il avait touché le poteau, il avait manqué de réussite lors du match aller. Voilà, est-ce que la star du PSG va pouvoir en tout cas montrer qu'il est bien au-dessus? C'est sur ce genre de rencontre qu'on l'attend.
Allez, Kodjo, Kylian Mbappé marquera un but ce soir. Kodjo?
Oui, allô, je le souhaite, mais Vitinha, là, je voulais envoyer un message fort à Vitinha.
D'accord.
Mais ses frappes de tir, ses frappes là, de 25-20 mètres, là, il n'a qu'à tirer.
Mais il n'a qu'à tirer.
Il tire une fois, deux fois, et troisième fois, ça va rentrer dans le but. Vitinha a un bon frappe de tir.
Cédric, un petit mot?
Mais c'est vrai, ouais. C'est une des solutions. Il avait marqué à Barcelone Vitinha de 25 mètres. Pourquoi pas le voir refaire ça au parc ce soir? C'est un des hommes en forme. Et Luis Enrique, je pense qu'il a un petit peu saisi cette capacité pour Vitinha.
Eh bien, on verra ça à partir de 18h57, temps universel, match à vivre en direct et en intégralité sur RFI avec vous, Cédric De Oliveira. Et dans la foulée, n'oubliez pas Radio Foot International avec Annie Gasnier. 10h17. À Paris, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Tiens, on reste au Togo puisque Abel nous appelle de Lomé. Bonjour Abel.
Bonjour Monsieur Wan.
Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, et vous?
Ça va, merci beaucoup. Vous avez des questions sur la Géorgie. Le pays est secoué par un projet de loi.
Effectivement, merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur la question. Depuis quelques semaines, des milliers de Géorgiens descendent dans les rues pour dénoncer le projet de loi sur l'influence étrangère. Donc, par rapport à cela, j'ai deux questions.
Oui.
La première, pourquoi est-il autant contesté?
Alors, c'est vrai que ça fait 3 semaines maintenant que des dizaines de milliers de personnes manifestent et elles devraient être nombreuses aujourd'hui dans les rues de Tbilissi, la capitale, puisque ce fameux texte doit revenir ce mardi en troisième lecture au Parlement. Bonjour Régis Janté.
Bonjour à vous.
Correspondant de RFI à Tbilissi, quel est donc ce projet de loi qui a mis le feu aux poudres?
C'est un projet sur ce qu'on appelle les agents de l'étranger et qui consiste en fait à, en quelque sorte, stigmatiser les organisations et les médias aussi qui perçoivent plus de 20% de leur budget de l'étranger, d'un pays étranger. Et la Géorgie, c'est un pays pauvre et les médias et ces organisations de la société civile qui font vraiment leur travail de critique du pouvoir, quel qu'il soit, dépendent essentiellement de l'argent étranger, essentiellement occidental à vrai dire, puisqu'on est vraiment dans une dynamique pro-occidental en Géorgie, dans un contexte post-colonial, on essaie d'échapper à la Russie. Et donc si cette loi est très contestée, c'est d'un côté parce qu'on sait très bien que le modèle, contrairement à ce que dit le pouvoir, qui dit que c'est le modèle de la loi américaine de 1938, mais en fait non, c'est vraiment la loi russe de 2012, parce qu'on fait partie de cet espace post-soviétique, dans l'ère d'influence russe. Et cette loi en Russie s'est avérée très liberticide, contre la liberté de parole, de rassemblement, de s'opposer politiquement. On voit très bien ce qui se passe en Russie. Donc ça, c'est une première inquiétude dans un pays qui est plutôt assez libre, la Géorgie, voire très libre. Bon, voilà, c'est culturel, on pourrait dire. Et puis l'autre inquiétude qui va avec, à vrai dire, c'est que justement, on a très peur de revenir sous l'influence russe. Cette loi, ce n'est pas simplement une loi technique, j'ai envie de dire, c'est aussi une loi civilisationnelle qui, derrière, entraîne tout un mode de gouvernement, tout un mode de vie. Il y a d'ailleurs d'autres lois qui vont accompagner celle-ci. Et c'est l'inquiétude d'une bonne partie de la population, et notamment de la jeunesse, qui manifeste comme jamais, en fait, dans les rues de Tbilissi.
Une loi qui pourrait donc être adoptée aujourd'hui, même en troisième lecture. Vous avez une autre question?
Régis. Elle sera adoptée plus tard, c'est la semaine,
plus tard.
Ça sera à partir du début de la semaine prochaine, normalement.
D'accord, très bien. Merci de cette précision. Abel, votre deuxième question.
Oui, je voudrais savoir, les manifestants pourraient-ils parvenir à faire reculer le gouvernement ?
Faire reculer le gouvernement. Régis Janté, je trouve la question intéressante parce qu'il me semble, et je parle là encore une fois sous votre contrôle, que l'année dernière, le gouvernement avait tenté de faire passer à peu près le même texte et finalement il avait rétro-pédalé.
Exactement, c'est exactement ce qui s'était passé, mais avec beaucoup moins de gens dans les rues. Je pense que l'an passé, on avait 25-30 000 personnes, alors que là, on a atteint certainement les 80 000 pour un petit pays de 3,7 millions d'habitants. C'est vraiment une foule énorme. Pour répondre à cette excellente question d'Abel, je crois que la question, c'est vraiment le nombre. Il n'y a que les Géorgiens qui ont leur destin dans leurs mains aujourd'hui. S'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans les rues et qu'ils restent dans la rue, ils parviendront peut-être, probablement, à faire que cette loi ne pas adoptée, comme il l'avait fait l'an dernier. Mais aujourd'hui, on sent un gouvernement beaucoup plus déterminé, probablement aussi beaucoup plus sous pression de l'ancienne puissance coloniale qu'est la Russie. Et donc, le match, si j'ose dire, est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, beaucoup plus risqué. On a vu un peu apparaître des nervis, de la violence dans la rue. Donc, on sent que des deux côtés, la situation est très tendue. Chacun joue, en quelque sorte, tout son avenir. Et ça promet des jours à venir très risqués, très tendus et possiblement très graves.
On suivra ça évidemment avec vous, Régis Janté, en direct de Tbilissi, la capitale géorgienne. Abel, on a répondu à vos questions ?
Parfaitement, merci beaucoup et bonne journée.
Et bonne journée à Lomé, Régis, bonne journée à Tbilissi. Il est 10h22 à Paris. Allez, on repasse très vite au standard avec des questions sur le retour du président Xi Jinping en Europe. On vous en parle sur l'antenne de RFI depuis dimanche. Bonjour Ali.
Bonjour Anne Gomel, comment vous allez ?
Bah écoutez, ravi de vous accueillir et de dialoguer avec un auditeur de Cotonou. Et vous-même ?
Oui, je vais très bien.
Bon, on vous écoute. Quelles sont vos questions, Ali ?
C'est la première fois depuis 2019 que le président chinois est en Europe.
Oui.
Pourquoi avoir choisi ces trois pays ?
Alors, les trois pays, à savoir la France, la Hongrie et la Serbie, ce sont donc les trois étapes de la tournée européenne hautement politique du président chinois. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour.
Enseignant-chercheur associé à l'INALCO, spécialiste de la Chine, pourquoi Xi Jinping a-t-il choisi ces trois pays ?
Oui, alors effectivement, le sujet, ça a été rappelé à juste titre, qui est une première visite de Xi Jinping depuis 5 ans, et Xi Jinping n'était pas venu depuis 2019. Le monde a changé, n'est-ce pas, depuis, aussi bien la Chine que l'Europe, et il était donc question d'une visite en 2024, cette année, de Xi Jinping en Europe. Et la diplomatie a fait son œuvre pour qu'on ait le résultat de ces trois pays. Initialement, Xi Jinping se refusait à voyager seulement en Europe et venir en France. Et donc a été ajouté, côté diplomatie chinoise, au voyage en France, deux pays, et vous l'aurez remarqué, européens et non pas de l'Union européenne.
Oui.
La Serbie d'un côté, en plus de la France, et pour finir son itinéraire européen, la Hongrie.
Et ces deux derniers pays
de l'Union européenne.
Et ces deux derniers pays sont très proches de la Russie. Là aussi, ça n'échappe pas aux observateurs.
Et c'est donc bien l'équation qui a été souhaitée par la Chine et le message très clair qui est envoyé par la Chine d'une tournée européenne avec une sorte de majorité ou d'environnement politique plutôt pro-russe, plutôt de proximité, de proxémie avec Moscou. Ce qui veut donc dire que, j'allais dire la messe est dite, mais ce qui veut donc dire, si vous voulez, que les intentions chinoises pour l'Europe sont plutôt finalement assez anti-européennes, plutôt d'une approche bilatérale, pays par pays, pour instrumentaliser l'asymétrie, finalement que pèse la Hongrie face à la Chine, que pèse la Serbie face à la Chine, et peut-être même que pèserait, si on reprendrait les mots à huis clos chinois, la France par rapport à la Chine. Donc il y a cette volonté délibérée de la diplomatie chinoise d'instrumentaliser l'asymétrie et de flatter quelque part un certain nombre d'États, de sociétés, de dirigeants qui sont déjà alliés ou en tout cas sous la coupe sino-russe en Europe.
Ouais, donc...
Ce qui pose d'immenses questions sur la sécurité européenne, ce qui pose d'immenses questions sur la désunion européenne, ce qui est à l'avantage et à la faveur de Pékin. Pékin soufflerait sur les braises une forme de désunion européenne.
Emmanuel Véron, en quelques mots, c'est donc une tournée plus politique que commerciale.
Alors, il y a bien évidemment le volet commercial et une volonté côté Europe. On se souvient hier matin des déclarations d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron d'une volonté de rééquilibrage de mieux de réciprocité, de plus de réciprocité dans la relation commerciale avec la Chine. On verra si sera suivi des faits. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les relations sont très déséquilibrées. On a autour de 300 milliards de dollars, d'euros de déséquilibre par an dans la relation avec la Chine. En revanche, le volet politique domine côté chinois, puisque la confirmation des sujets d'une puissance politique, d'une puissance diplomatique, avec cette visite en Serbie et en Hongrie, où la partie chinoise restera 3 jours en Hongrie, donc davantage qu'en France, oui. Et en Serbie, inaugurera un centre culturel qui sera probablement avec d'autres usages et évoquera le bombardement de l'ambassade en 99 chinoise.
C'était aujourd'hui, jour pour jour, c'était le 7 mai 1999, exactement. Bombardement par l'OTAN, et on s'en souvient à l'époque, les Américains avaient plaidé l'accident, version que les Chinois n'ont jamais cru. Merci infiniment Emmanuel Véron d'avoir été avec nous, merci de cet éclairage, chercheur à l'INALCO, spécialiste de la Chine. Je me fais le porte-parole de Demba Moussa, il nous a envoyé ses questions via les réseaux sociaux, il est à Bamako, et il revient sur cette décision de la Commission européenne d'ouvrir une enquête contre Facebook et Instagram. Demba Moussa a compris qu'on était à quelques semaines des élections européennes, qu'il y avait un lien entre cette décision et ce scrutin, et il voulait comprendre pourquoi ces plateformes étaient visées par la Commission. Bonjour Alexandre de Strel.
Bonjour.
Vous êtes directeur académique au think tank Center on Regulation in Europe. Pourquoi Instagram et Facebook sont-elles dans le collimateur de la Commission européenne ?
Alors en fait, ces deux plateformes ont une influence systémique sur la société européenne puisqu'ils couvrent plus de 250 millions d'utilisateurs. Donc clairement, ils influencent la vue de 250 millions d'utilisateurs en Europe, donc plus de la moitié de la population européenne. Et par ailleurs, on est dans une année particulière puisqu'on a les élections européennes et dans nombreux autres pays de l'Union européenne, des élections nationales. Et donc, la crainte de la Commission, c'est que il y ait une manipulation de l'opinion via une manipulation de l'information. Et donc, les plateformes doivent mettre en œuvre des systèmes pour réduire, on n'arrivera jamais à zéro, mais pour réduire les contenus illégaux ou la désinformation. Et ce que reproche la Commission à deux des plateformes du groupe Meta, donc Facebook et Instagram, c'est de ne pas avoir mis suffisamment de mécanismes en place, et en particulier une trilogie de mécanismes. D'une part, avoir des modérateurs internes au sein du groupe Meta et qui connaissent les langues de chacun des pays. D'autre part, une possibilité pour les utilisateurs, vous et moi, si on voit du contenu illégal ou de la désinformation, de l'indiquer à Facebook et à Instagram pour leur demander de le retirer. Et troisièmement, les chercheurs et la société civile avaient jusqu'il y a peu un outil qui permettait de voir ce qui se passait sur Facebook et Instagram qui s'appelle CrowdTangle.
Et cet outil va disparaître.
Et cet outil a disparu et n'a pas été remplacé par un outil similaire. Donc si vous voulez, la trilogie d'instruments, les modérateurs internes, les utilisateurs et les chercheurs, tout cela n'ont pas assez de moyens, selon la Commission, pour contrôler ce que fait Facebook et Instagram pour réduire la désinformation ou les contenus illégaux.
Et en deux mots, cette désinformation, Alexandre de Strel, elle vient d'où ? Qui a intérêt à manipuler l'opinion européenne ?
Ben, ça, évidemment, justement, c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'outils d'information pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais on se doute bien que dans le contexte géopolitique actuel, la désinformation peut venir des ennemis de l'Union européenne, par exemple la Russie, ou vous venez de parler de la Chine, on pourrait imaginer qu'eux aussi essayent de déstabiliser les élections européennes. Mais le problème, justement, c'est qu'on n'a pas assez d'informations et donc on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et c'est notamment ça qui est reproché à Facebook et Instagram.
D'où l'enquête lancée par la Commission européenne il y a quelques jours. Merci infiniment Alexandre de Strel d'avoir été avec nous. J'espère que Demba Moussa aura pu écouter vos explications. Sinon, il y a évidemment la séance de rattrapage, comme tous les jours, sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous. Dans 10 minutes, on parle ensemble de Vladimir Poutine. C'est jour d'investiture pour le président russe.